VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Nigeria, l'armée nigériane a annoncé aujourd'hui que le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait été sérieusement blessé et plusieurs commandants du groupe islamiste tués lors d'un raid aérien sur leur bastion du nord-est du pays. L'armée nigériane a déjà plusieurs fois annoncé la mort de l'insaisissable Aboubakar Shekau, qui réapparaît régulièrement dans des vidéos du groupe. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry se trouve dans la région pour évoquer la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Plus de détails sur la visite de John Kerry au Nigeria ce mardi avec Michel Joseph.
On s'attend à ce que le chef de la diplomatie américaine ait des entretiens avec le président Buhari à Abuja, la capitale, avant de se rendre dans la ville septentrionale de Sokoto pour parler de la tolérance. Sous le président Goodluck Jonathan, les autorités nigérianes se plaignaient du refus des États-Unis de leur vendre des armes pour lutter contre les islamistes de Boko Haram, dont l'insurrection a fait quelque 20 000 morts et 2,7 millions de déplacés. Washington avait alors expliqué cette réticence par des allégations de violation des droits humains dans les opérations des forces de sécurité nigérianes contre les insurgés. Des drones américains basés au Cameroun voisin prêtent main forte aux troupes régionales engagées dans la lutte contre Boko Haram. Par ailleurs, et selon un responsable militaire américain s'exprimant sous anonymat, un petit groupe de soldats américains a été envoyé à Maïdougouri, berceau du groupe Boko Haram.
Et toujours au Nigeria, une foule de musulmans en colère a tué 8 personnes dans le nord du pays en mettant le feu à la maison d'un homme qui avait tenté de secourir un étudiant chrétien accusé de blasphème. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police nigériane. Les incidents ethniques ou interreligieux sont fréquents au Nigeria et ont fait des milliers de morts ces dernières années. Gambie, les États-Unis très préoccupés après la mort en prison d'un membre de l'opposition gambienne. Le deuxième militant du Parti démocratique unifié PDU a décédé en détention depuis le début de la répression contre les manifestations dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Solo Krumah avait été arrêté le 9 mai avec 14 personnes lors d'un rassemblement en faveur des réformes électorales. Il est décédé samedi dans un hôpital de Banjul où il avait été admis le 8 août après avoir subi une opération chirurgicale dont on ignore la nature, indique le PDU, son parti. Sa famille n'avait autorisé aucune intervention selon le PDU. Les États-Unis sont vivement préoccupés par la mort de Solo Krumah et inquiets des informations de mauvais traitements et de tortures contre les personnalités de l'opposition en détention, a déclaré le département d'État. Washington appelle à une enquête indépendante sur toutes les allégations crédibles de torture et de mauvais traitements et demande aussi à la Gambie de libérer tous les prisonniers politiques et surtout de cesser la répression à l'encontre de l'opposition. Les manifestations contre le président Yahya Jammeh arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1994 sont rares en Gambie. Les prochaines élections doivent se tenir en décembre. Une cinquantaine de manifestants, dont Ousseynou Darbo, le chef de file du PDU, ont été arrêtés en avril et en mai. 11 militants de l'opposition ont été en outre condamné en juillet à des peines allant de l'amende à 3 ans de prison.
En RDC, l'opposition au président Joseph Kabila a appelé à une journée ville morte aujourd'hui. Elle veut dénoncer la décision du facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, d'entamer les travaux préparatoires du dialogue national en vue d'élections apaisées. Mais un autre groupe d'opposants pense que cette action ville morte n'est pas suffisante. Le professeur John Malala, membre du comité de coordination des forces acquises à la transition sans Kabila, a dans son collimateur la commission électorale. On l'écoute.
Si Kabila était éligible, les élections présidentielles auraient bel et bien eu lieu en 2016 dans les délais constitutionnels. Nous voyons dans l'histoire récente, ça nous renseigne qu'en 2006, dans une situation d'après les guerres, on avait les fichiers électoraux qui avaient été construits en 6 mois. Et nous parlons aussi qu'en 2011, les fichiers électoraux n'avaient pris que 4 mois. Alors, en 2016, Corneille Nangaa veut nous parler d'un fichier électoral qui doit lui prendre un minimum de 16 mois. Le monsieur doit démissionner, il est incompétent et il est corrompu par les pouvoirs en place.
Le professeur John Malala, des forces acquises à la transition sans Kabila. Au Gabon, la campagne pour la présidentielle bat son plein. À quelques jours des élections samedi, le président candidat Ali Bongo est partout alors que l'opposition brille par son absence, d'après l'AFP. Face à son principal rival, Jean Ping, 73 ans, Ali Bongo Ondimba, 57 ans, a sorti les grands moyens et joue la carte de la rupture avec l'ancien régime de son père Omar Bongo, resté 41 ans au pouvoir. Les deux camps s'accusent mutuellement d'incitation à la haine et les Gabonais commencent à craindre des violences après le scrutin.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, plusieurs personnes accusées de charlatanisme ou de sorcellerie ont été battues ou lynchées par la foule. Cette pratique gagne du terrain, en particulier à l'intérieur du pays, où l'autorité de l'État peine à être rétablie en raison de la crise que la RCA a connue, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Entre janvier et août 2016, au moins 110 personnes ont été accusées de sorcellerie ou de pratiques de charlatanisme en République centrafricaine. Ces personnes ont subi des traitements parfois inhumains, arrestations arbitraires, exécutions par des membres des groupes armés, lynchage par la foule ou encore forcés à quitter leur localité. Mi-août, au moins une personne est morte et une trentaine de maisons sont incendiées suite à une scène de jalousie qui a tourné au drame non loin de la ville de Paoua dans le nord-est. La montée de la vindicte populaire, parfois en présence des forces de sécurité dépourvues de moyens, inquiète même à Bangui.
Évidemment, cela nous inquiète. Nous sommes dans la jungle que chacun de nous doit appliquer ce qu'il pense ou bien ce qui s'est laissé emporter par ses sentiments et agir.
Si on prend quelqu'un, soit disant que c'est un sorcier, on a quand même une loi centrafricaine qui est là. Il faut passer la personne à la justice, demander au lieu de faire des lois personnelles. Ça, je vois ça, c'est pas du tout normal.
Je pense qu'avec cette montée, il est temps qu'on puisse arrêter cette pratique parce que c'est pas bien de faire la justice à son niveau.
Pour l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, l'absence de la justice légale a laissé libre cours à la vindicte populaire. Son président, l'avocat Guy-Antoine Dangavo, appelle à des mesures judiciaires contre les auteurs de ces actes.
Nous pensons qu'il y a une justice légale, une justice institutionnelle, et donc c'est l'absence de la justice à des endroits qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos concitoyens pensent que le meilleur moyen, c'est de faire justice soi-même. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation, nous ne pouvons pas croiser les bras. Pour notre part, il faut que les autorités prennent à cœur cette situation pour mettre la main sur les auteurs de ces faits et les traduire évidemment en justice. Puisque la tendance est aujourd'hui à la hausse et on constate que dans la de l'arrière-pays, ces faits sont récurrents.
Le gouvernement, tout aussi conscient de cette situation, rappelle que des dispositions sont déjà prises pour que les auteurs des actes de justice populaire soient sanctionnés en conformité à la loi. Flavien Mbata, ministre centrafricain de la justice.
Les auteurs de ces cas de justice populaire doivent répondre de leurs actes devant la loi et ce, en tenant compte des dispositions constitutionnelles. Je suis en train donc d'instruire par circulaire tous les procureurs généraux et tous les procureurs de la République de notre pays, tous les OPJ de dans leurs différents ressorts au strict respect de la loi fondamentale de notre pays ainsi que du code pénal.
Le week-end dernier, trois femmes accusées de sorcellerie, frappées, ligotées et jetées dans la rivière Ouam dans le nord du pays, ont surpris leur bourreau. Elles ont réussi à s'en tirer saines et sauves. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016 maintenant, le candidat républicain Donald Trump a enjoint l'ex-président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidence, de fermer la fondation Clinton, une entreprise très corrompue selon lui, Jacques Aristide.
Comme à l'accoutumée, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Les Clinton, dit-il, ont passé des décennies à se remplir les poches en s'occupant de leurs donateurs au lieu des Américains. Le candidat républicain a appelé la Fondation Clinton à rendre les dons aux pays qui, d'après lui, ont discriminé contre les femmes et les gays, une allusion à l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont versé des millions de dollars à la Fondation au cours des années pendant lesquelles Hillary Clinton dirigeait la diplomatie américaine de 2009 à 2013. Le camp républicain parle de conflit d'intérêts. Des messages ont également été découverts récemment dans lesquels un proche de Bill Clinton à la Fondation écrivait à deux proches collaborateurs d'Hillary Clinton au département d'État pour demander à ce qu'un donateur de la Fondation, le milliardaire libano-nigérian Gilbert Chagouri, soit reçu par un responsable diplomatique américain au Liban. En fin de semaine dernière, Bill Clinton a annoncé qu'en cas de victoire de sa femme en novembre, sa Fondation n'accepterait plus de dons en provenance de l'étranger ou d'entreprises et que lui-même a démissionné retiré du conseil d'administration. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, Robbie Mook, a lui rappelé que la fondation fournissait des traitements contre le sida à plus de 10 millions de personnes ou qu'elle avait réduit le coût des médicaments contre le paludisme de 90%.